marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Pour nous, les archives sont ouvertes.
Il y a 50 ans,
souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons.
Une journée à la radio à la belle saison, mars 68.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En mai 68, chacun va vivre l'oreille collée à la radio. La France deviendra un immense transistor. La preuve sera administrée de notre importance. Pourtant, les années précédentes, les Français avaient davantage parlé de la télévision. La moitié d'entre eux possédait maintenant un récepteur et la moitié de cette moitié recevait la jeune deuxième chaîne. Mais la radio elle-même avait beaucoup changé. En 1962-63, le ministre de l'Information, Alain Perfit, avait décidé que, face à la concurrence d'Europe et le Radio Luxembourg, il fallait rajeunir les antennes. Sans vouloir parodier Jean-Yann, le mot d'ordre était plutôt du style « Quand j'entends le mot culture, je sors mon transistor ». France Inter, qui est créée à cette occasion, adopte donc un ton plus populaire, beaucoup moins solennel que les vieux postes nationaux, avec une offre très développée de services inter-services routes. Le navire amiral est flanqué de deux modestes esquifs qui vont prendre leur autonomie, France Culture et France Musique. Il n'y a que le contrôle de l'information par le gouvernement gaulliste qu'on ne pense pas à modifier, ce sera un des thèmes de mai. À Radio Luxembourg, la transformation en RTL a été aussi brusque. En 1966, fini Zapimax ou la famille Duraton. En deux temps, trois mouvements, le directeur Jean Farand a tout changé encore un peu de temps et la façade de la rue Bayard sera recouverte par l'installation cinétique de Vasarely qui vient juste d'être démontée. La radio d'après-guerre est recouverte par une lame de fond. Mars 68, donc, c'est la date de sortie de la chanson fameuse de Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille, je n'ai pas sommeil. À France Inter, route de nuit a accompagné les routiers, les pompistes, les boulangers. Et à 7h, elle a proposé un moment le réveil en fanfare de Georges Lourier. Hélas, cette émission a disparu en mars 1968. Alors, les nostalgiques vont se rabattre sur France Culture. Robert Reynaud y a été relégué après la réforme. Son réveil musculaire n'était plus assez populaire. Est-ce si sûr? Les rares enregistrements qui en sont conservés figurent aujourd'hui dans nos bouquets de podcasts.
Auditeurs amis, bonjour. Et comme chaque matin, nous voici réunis. Pour nous, c'est d'ailleurs un très grand plaisir, vous le savez. Nous allons commencer par les foulées. Vous courez sur la pointe des pieds en laissant les bras bien souples. Allez, courez, courez, courez. Vous levez les genoux d'abord un petit peu. Et puis de plus en plus haut, le droit, le haut, droit, le haut, droit, le haut. Après les foulées, vous respirez deux ou trois fois bien profondément et vous passez à la seconde partie de la mise en train. C'est la marche du canard, une marche en position accroupie. Par conséquent, vous vous asseyez sur les talons et vous posez les mains sur les genoux. Alors vous progressez dans cette position fléchie, dans cette position accroupie, en dégageant alternativement le pied droit et puis le pied gauche. Le droit d'abord, on appuie sur le pied gauche, donc vous avancez le pied droit. Ensuite l'inverse, on appuie sur le pied droit, c'est la jambe gauche fléchie que vous avancez. Et tout cela dans un mouvement régulier, vous avancez le pied droit, le pied gauche, le pied droit et le pied gauche. Continuez, c'est bien, laissez le buste droit. À demain.
La culture physique, c'est un sujet apparemment apolitique. Toute la matinale, à l'époque, serait volontiers apolitique. Ce n'est pas du tout le grand carrefour, l'enjeu quasi-industriel d'aujourd'hui. Les noms des animateurs n'apparaissent même pas dans les programmes. Ce sont souvent des fantaisistes, à RTL, Maurice Favière, des voix allègres qui vous aident à vous lever du bon pied, à être optimiste. Les chroniques sont très spécialisées, le monde rural, Paris indiscret. Cependant, à RTL, Maurice Clavel tente de tirer son récit de la soirée télé de la veille vers l'éditorial politique que tient Jean Fernieu à 8h. Une publicité montre l'Élysée dans l'obscurité avec une seule lumière allumée, celle du bureau du général qui écouterait Fernieu. Enfin, en réalité, de Gaulle n'est pas aux affaires si tôt le matin, et à l'époque, nul ne songe à tirer les hommes politiques du lit pour faire la tournée des plateaux. Heureuse tranquillité de l'information maîtrisée.
« 8h30, Interpanorama. Interpanorama s'interroge ce matin au sujet d'un phénomène dont on observe en ce moment les manifestations répétées à l'ouest, dans des pays aux régimes différents pour des causes non moins diverses, les manifestations d'étudiants. Comment expliquer ces explosions? Quelles réflexions inspirent-elles? Eh bien, ce sera précisément le thème de l'entretien que vont avoir l'invité d'Interpanorama, M. Bernard Dorin, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, et Marc Alvarez, qui l'interroge.
Une des premières causes pourrait être le déclin de la cellule familiale traditionnelle. Il est bien évident que lorsque l'étudiant pouvait se replonger dans son milieu familial, il était peut-être moins tenté d'obéir à certaines sollicitations collectives. Autre cause possible, peut-être la concentration des étudiants aujourd'hui en grande masse, par exemple autour des campus universitaires, qui peut créer un esprit nouveau, un esprit de masse précisément. On peut également mettre en avant une maturité plus précoce des jeunes par rapport à ce qu'était la maturité de leurs aînés. On peut aussi mettre en avant une résistance du milieu, car il ne faudrait pas mettre tout sur le dos des étudiants. Il y a peut-être, il y a sans doute même souvent une incompréhension du milieu. Et puis, mon Dieu, peut-être l'inadaptation aussi aux vieilles structures. Peut-être une conscience de frustration à l'égard des générations précédentes. Et puis aussi, mon Dieu, pourquoi pas, une angoisse économique que ressent vivement la jeunesse et une angoisse devant le mal nucléaire, une sorte de, si vous voulez, de maladie de civilisation.
Quels sont les grands pôles de cette agitation ?
Vous savez, il est difficile de les systématiser, mais la première, ce serait peut-être la recherche par les étudiants de la liberté sexuelle. Et ça, ça s'exprime dans le monde entier, à Berlin, à Uppsala, à San Francisco. C'est au fond le même thème de liberté des rapports sexuels entre garçons et filles qui est avancé. Il y a aussi une autre cause, peut-être, ou un autre thème, c'est le thème de l'autogestion des établissements universitaires, le thème du syndicalisme étudiant. Cela va beaucoup plus loin quelquefois que le simple désir de gérer les locaux, ou les foyers, ou les restaurants universitaires. Cela va quelquefois jusqu'à prendre en main la marche même de l'université, grâce à une sorte de syndicalisme révolutionnaire, susceptible même éventuellement d'imposer sa volonté aux professeurs. Et puis enfin, le Vietnam.
Si Bernard Dorin est invité à parler longuement des mouvements étudiants, c'est d'abord parce qu'il est labellisé gouvernement. Il parle d'ailleurs avec pas mal de finesse. Et puis, on croit que la France sera épargnée. Le grand éditorialiste du Monde, Pierre Vianson-Ponté, publie cette semaine-là un texte qui sera très remarqué, « La France s'ennuie ». Il énumère les drames, le Vietnam, les massacres de communistes en Indonésie, la guerre du Biafra, la dictature des colonels en Grèce. Mais, note-t-il, les Français s'en émeuvent peu, ce ne sont pas leurs affaires. On s'ennuie, le général lui-même s'ennuie. Il ajoute, ne s'ennuie pas. En revanche, les chômeurs, les petits agriculteurs écrasés par le progrès, les vieillards économiquement faibles, tout ce dont, à Radio France, se préoccupe Clara Candiani. Obstinément, elle va sur place, dans les bidonvilles, les lieux de misère, l'envers de la société de consommation. Et le midi, dans une émission qu'on présente à tort comme seulement caritative, les Français donnent aux Français, voici ce qu'elle dit en mars.
Bonjour, bonjour à tous et à chacun. Ce que j'ai vu ce matin, je ne l'avais jamais vu et je ne souhaitais à aucun journaliste de se trouver devant le spectacle qui m'attendait dans ce petit appartement bourgeois de Saint-Mandé. J'ai sonné. Un vieil homme doux et là m'a ouvert la porte. Il m'a tout de suite dit « Ah, vous venez voir les enfants ? Ben, je vais aller les chercher. » et il est rentré dans la pièce quelques secondes plus tard avec un homme paralysé, aussi grand que lui, qu'il portait dans ses bras. Il l'a installé dans un vieux fauteuil, et puis il est ressorti, il en a ramené un second, également dans ses bras, qu'il a couché sur un divan. Ce sont ces deux hommes, paralysés de la tête aux pieds, atteints depuis leur naissance de la maladie de Little, que ce père appelle les enfants.
Lui, il est né en 1937, et son frère Michel, 1938. Vous savez, c'est dur, tant que je travaillais, ma pauvre femme, vous savez, elle était tout seule. Elle supporte tout. Hein.
On m'a dit qu'il y avait quelque chose d'incompréhensible, c'est que vous n'aviez qu'un fauteuil, vous n'avez droit qu'à un fauteuil pour deux. Au fond, ce que vous voudriez...
C'est pas facile à dire, vous savez.
Eh bien, dites-le.
Oh, vous savez, nous sommes... Je ne sais pas,
on va bien voir si c'est impossible. On ne le fera pas, dites-le.
Pour moi, il me faudrait un fauteuil roulant, vous savez, pour les grandes, là, vous savez.
Oui, mais un fauteuil roulant qui soit pas comme les autres. Deux fauteuils roulants, dites-le. Sa femme écoutait notre conversation en silence. Dites-moi, je reviens au fauteuil.
Au fauteuil, oui.
Ça vous ferait plaisir d'en avoir deux ?
Un fauteuil roulant, oui.
Un fauteuil roulant et un très beau fauteuil club.
Et un fauteuil club.
Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vous savez, les fauteuils.
Je ne sais pas, vous savez. Je les regarde pas beaucoup parce que... J'ose pas regarder des choses, vous savez, dans les magasins, puisque je peux pas l'acheter.
Notons que les Français donnent davantage aux Français que France Inter ne donne aux Français. Enfin, je parle évidemment de numéraire. Avouez que la dotation du grand jeu du midi n'est tout de même pas extraordinaire. 1000 francs.
Pas de devinette à 12h45, c'est bien sûr le jeu des 1000 francs.
Quelle est l'île volcanique des Salomon qui fut en 1942-43 le théâtre d'une lutte particulièrement longue et dure entre les Japonais et les Américains?
Guadalcanal.
Guadalcanal, bravo. Question de M. Robert Sarran, 15 rue Rimbaud à Montpellier. Quel est le nom de la spécialité méridionale qui consiste en une tarte à l'oignon et aux anchois décorée avec des olives noires et des moitiés de petites tomates?
Je pense que c'est la pissaladière.
C'est la pissaladière, merci.
Alors avec Lucien Jeunesse, nous sommes entrés dans le grand rendez-vous de la radio qui est alors la tranche de midi. Le journal maintenant, ça fait un moment que les dépêches d'agence ne sont plus lues par les speakers. Les journalistes viennent en direct, en personne, parfois avec des éléments sonores. L'information politique intérieure à inter se chevauche évidemment avec la communication gouvernementale. Monsieur Georges Gorce, le ministre de l'information, n'est jamais très loin de la maison de la radio.
Une précision tout de même très importante, au dernier top inter, il est 13h. France Inter, le journal d'Interactualité Magazine, présenté par Jacques Carra.
Eh bien, ce matin, Jean-Claude Killy, en fin de compte, a pris le départ du slalom géant de Méribel. Certes, Killy, ce matin, n'a pas gagné. Il est second. D'ailleurs, tout à l'heure, Paul Laporte doit nous appeler au téléphone de Méribel. Le téléphone, précisément, occupera une grande place dans ce journal, puisque M. Yves Guéna est aujourd'hui notre invité. M. Guéna, le ministre des Postes et Télécommunications, qui vient de mettre au point un plan pour résoudre la crise du téléphone. M. Guéna, d'ailleurs, recevra tout à l'heure les doléances des usagers, puisque dans ce studio 134, dans ce studio d'Interactualité Magazine, se trouvent également une quinzaine d'auditrices qui appartiennent à l'Union féminine civique et sociale. Ce journal nous conduira également, à la suite de M. Georges Pompidou, à Orly et à Roissy en France. En effet, ce matin, le Premier ministre a visité les chantiers d'extension de l'aéroport de Paris. Et nous commencerons ce tour des nouvelles de la matinée par le Vietnam. Et comme le confirme notre envoyé spécial à Saïgon, Roland Mel, à l'heure actuelle, on note une certaine accalmie dans les combats.
C'est actuellement une période d'attente et, ce qui risque d'être dangereux, on pourrait presque dire une période de détente. À l'instant même, en arrivant à l'immeuble des radiorépéteurs, où généralement se trouvent dans le hall 5 sud-vietnamiens armés jusqu'aux dents, je viens de trouver à l'instant 3 fusils mitrailleurs avec leur bande de balles, mais personne à côté. Et ce relâchement qu'on sent de plus en plus est peut-être dangereux.
qu'à présent la réunion du pacte de Varsovie qui s'est terminée à Sofia sur un semblant d'unité. Tous les dirigeants communistes, roumains compris, ont signé en fin de compte le communiqué final.
Et ce communiqué doit être publié aujourd'hui. On s'attend à un texte de compromis sur les problèmes de la non-prolifération nucléaire et sur le Vietnam.
Voici les titres. France Inter, donc il y a 50 ans, très précisément, le 8 mars 1968. Heureusement, pour la pluralité en matière de politique intérieure, il y avait la confrontation des plumes de la presse écrite, où on retrouve dans Interopinion Pierre Viançon-Ponté, déjà cité, son texte du Monde, « La France s'ennuie, fête du chemin », et le titre devient un leitmotiv.
J'entends exactement les mêmes choses que depuis 10 ans, il faut bien dire. Après 10 ans, l'usure est évidemment plus sensible qu'après 5 ou qu'après 2 ou qu'après 1, et il me paraît évident que la majorité s'use. Alors, je cherche des thèmes mobilisateurs pour la jeunesse, je cherche des thèmes... Bon, je vois hier, avant-hier, l'optimisme du Premier ministre qui dit « Jamais la France n'a été aussi bien gouvernée », eh bien, c'est une satisfaction qui, vu du pouvoir, est évidemment assez classique. Je vois une opposition assez talon rouge, d'ailleurs, assez courtoise, finalement, dans l'ensemble, ou des oppositions, si vous préférez. Et puis, nous allons tous notre petit bonhomme de chemin, et... Je ne vois pas là-dedans lieu à grand débat, sinon...
Vous pensez presque qu'il y a là de quoi s'ennuyer.
Par exemple, je ne veux pas avoir l'air de m'obstiner sur des idées fixes, mais j'ai un peu l'impression que tout ça manque terriblement de nerfs et de sel pour l'ensemble du corps électoral. Qu'on ne m'accuse pas d'ailleurs de souhaiter les guerres, les révolutions ou les bagarres, mais simplement de regretter l'absence, je le répète, de thèmes mobilisateurs.
Oui, ce que espère Pierre Viançon-Ponté, c'est de l'ardeur et de l'imagination dans un pays qui ne doit pas se réduire à l'hexagone. Mais enfin, reste de menu plaisir qu'il est doux de ne rien faire et de vivre flirtissimo.
Bonjour, c'est Françoise Hardy, c'est moi qui ai aujourd'hui la chance de flirter avec Monsieur José Arthur.
Allô ?
Allô ?
Est-ce que vous changez votre voix ou est-ce que vous gardez votre vraie voix ?
En principe, c'est ma vraie voix.
Oui, mais elle est un peu enrouée, mais ça plaît beaucoup. Oui, un tout petit peu. Là, c'est formidable. Vous savez que vous êtes la première personne qui a une voix jeune, qui a une voix prenante, qui est belle, je le sais, on me l'a dit, qui est connue, on me l'a dit aussi. Alors... Je vais vous dire une chose maintenant. Vous avez une voix qui est terriblement aphrodisiaque. Mais je me demande si c'est la vôtre.
Vous pensez que c'est la voix de qui ?
Si, enfin, c'est la vôtre déguisée.
Oui.
Ouverts ou fermés, mes yeux ne voient que toi. Vie doux occupée, ma tête ne pense qu'à toi. À vif prisonnier, mon cœur n'aime que toi. Seul à en pleurer, car je ne veux que toi. Ouverts ou fermés, tes yeux ne me voient pas. Vite plus qu'occupée, ta tête ne pense pas. Insouciant, léger, ton cœur s'en vient, s'en va. Trop sollicité, qu'as-tu à faire de moi ?
Et si l'après-midi on faisait une infidélité à Madame Inter, Annick Beauchamp, de toute façon elle ne va pas rester seule. Beaucoup de clubs, Madame Inter, l'accompagnent un peu partout dans le pays et son émission dure 2 heures. À RTL, Ménie Grégoire, elle... ne dispose que d'une demi-heure, qui compte double, voire triple. Ménie dit que c'est un petit psychodrame à 3 que son émission. Elle, l'auditeur, l'interlocutrice. Parce qu'il faut prononcer parfois les mots au féminin, au moins 1 fois sur 2. Surgit une parole. On va d'ailleurs dire de mai 68 que c'est une prise de parole.
RTL 15h04.
Manny Grégoire répond à votre courrier.
Eh bien maintenant, Manny, voici vos appels téléphoniques.
Allô ? Allô ?
Bonjour, madame Manny Grégoire ?
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, madame. Je voulais parler pour faire la différence entre la sexologie, l'érotisme et la pornographie.
Ça n'est pas inutile, c'est bien une bonne idée. Je suis bien d'accord.
Voilà, je me suis mariée à 17 ans. Mon mari était plus âgé que moi, parce qu'il a 7 ans de plus que moi. Évidemment, je ne connaissais rien du tout.
Non, non, c'est normal à 17 ans.
Oui.
Est-ce que lui en connaissait un peu plus long ?
Oui, évidemment, il avait déjà vécu tout ça.
Oui.
Et puis, ça, oui. Il avait vécu tout ça. Ah oui, il m'a appris beaucoup de choses, tout ça. Mm-hmm. Et genre, il était très, très délicat au début du mariage.
Oui.
Et puis, il m'a montré des livres d'un docteur qui a écrit au service de l'amour.
Oui, je connais ce livre. Oui.
Et édition masculine.
Oui, je connais.
Je les ai lus bien attentivement.
Oui.
Et puis, quand je comprenais pas quelque chose, je lui demandais.
C'est merveilleux d'avoir fait votre éducation avec lui comme ça.
Oui,
on peut pas rêver mieux.
Et puis, il m'a dit, tu vas faire la différence entre la pornographie et l'érotisme.
Oui, oui.
Alors, on a acheté des livres érotiques.
Oui.
Et des livres pornographiques.
Et vous a appris la différence.
Il m'a appris la différence.
Quand on est deux, vraiment que deux.
Oui.
Il n'y a pas de pornographie.
Non.
Est-ce que je me trompe ?
Oui.
Je me trompe ?
Non, vous vous trompez pas.
Je ne me trompe pas.
Il s'accommode de 100 recettes. C'est un hors-d'œuvre original. Et savourez ce goût subtil, délicat, de fine amande fraîche. C'est bon. L'avocat de la Martinique, c'est l'avocat riche, très riche en vitamine A. Mais si léger à digérer. Pour votre régal, pour votre plaisir, tout plaide pour l'avocat de la Martinique.
Elle venait de RTL, parce qu'il n'y a pas de publicité sur le service public, c'est bien connu. Enfin, un des grands débats de l'année précédente a été provoqué par Georges Pompidou, qui voulait introduire à la télévision la publicité. Il souhaitait aussi créer une société commerciale qui valoriserait financièrement les archives de l'ORTF, s'appellerait Vidéogramme de France. Plus tard, la création de l'INA va aller contre cette idée. Et France Inter, eh ben, il arrive que s'immisce le parrainage, pas dans n'importe quelles conditions, dans le jeu littéraire. Que voici, le parrainage est celui d'une marque distinguée, hein, pas le genre vulgaire, gauloise, gitane, non, non.
Alors attention, pour trois paquets de quelle cigarette ?
Marinier.
La cigarette à l'avant-garde du goût français, et nous allons parler des livres, les livres les plus vendus ce mois-ci.
Oui.
Pour trois paquets de Marigny, l'auteur du Matrimoine, qui est le 9e des ventes.
Hervé Bazin.
Hervé Bazin. Pour six paquets de Marigny, l'auteur de Napoléon, qui lui est le 5e des ventes.
André Castelot.
Pour 9 paquets, c'est monotone mais c'est facile. Pour 9 paquets de Marigny, l'auteur de La Rose des Sables, qui lui est 8e des ventes.
Henri de Monterlin.
C'est parfait, monsieur, c'est très bien. Ça appelle des applaudissements aussi nourris. Est-ce que vous continuez vos 30 paquets ?
On va essayer, oui.
Toujours la littérature. 30 paquets de Marigny. Pouvez-vous me dire, monsieur, le titre du dernier roman de Françoise Sagan. Vous avez 10 secondes pour répondre et vous devez répondre avant le craquement de l'allumette.
La garde du cœur.
Comment ?
La garde du cœur.
C'est un joli titre, non ?
Ah, c'est charmant.
Puis c'est un titre qui vous rapporte quand même 30 paquets de Marigny.
Merci.
Ah, c'est très bien. Maintenant, c'est 60 paquets de Marigny. Vous continuez ?
Oui.
Pouvez-vous me donner le titre du dernier livre de Genot ? C'est 60 paquets de Marigny. Vous devez répondre avant le craquement de l'allumette et les 10 secondes. C'est un très beau livre. Alors, lui, je vous conseille de le lire. Il parle de la Camargue, il parle de différents personnages et. Il y a plusieurs romans dans un seul roman. Attention. C'est 60 paquets de Marigny. Attention, monsieur. Attention, le top. Top, monsieur, les 10 secondes. Je suis navré, c'est Haine-Monde et autres caractères. On perd avec le sourire quand même. On va vous remettre un très beau lot de consolation parce que vous avez été brillant jusqu'à 60 paquets. On vous applaudit très très fort.
On a reconnu Louis Boson qui compte les paquets de Marigny, mais on n'a pas encore entendu les feuilletons. À l'heure de Manny Grégoire, triomphait Noël aux quatre vents, Dominique Saint-Alban, Jean Chouquet. Un peu plus tôt dans la journée, il y avait eu San Antonio. Et à 18h50, on progresse dans cette journée de France Inter du 8 mars. Voici l'infatigable
Pierre Dac, la grande voix de Radio Londres, qui est présentement aussi directeur de l'Os à Moelle.
Bon baiser de partout. Une émission secrète de...
Donc, comme ont pu se rendre compte par eux-mêmes ceux qui nous ont fait l'amitié de suivre les deux premières époques de ce grand récit d'espionnage et d'anticipation, l'opération Psychose Toujours était entrée dans une phase décisive au moment même où nous avons dû interrompre pour quelques semaines la diffusion de ce prodigieux récit, et ceci pour des raisons que les frères Fauderche vous ont longuement expliquées.
En attendant, mon vieux, si vous voulez conserver votre place, je vous conseille vivement de faire rapidement exactement le résumé de tout ce qui s'est passé pendant la première partie de l'opération Psychose Toujours.
Mais impossible, mon colonel.
Pourquoi, s'il vous plaît?
Mais parce que, mon colonel, votre présence même à ce micro rend tout résumé inutile.
Vous imaginez peut-être que je vais faire votre boulot à votre place.
Mais non, c'est pas ça, mon colonel. Pour le boulot, je ne crains personne. Mais justement parce que j'ai bien en tête les derniers épisodes du dossier Psychose Toujours, j'affirme que votre présence ici est un défi à la logique et au bon sens.
Peut-on savoir pourquoi?
Mais parce que vous aviez disparu, mon colonel.
Ouais? Vous en êtes sûr?
Absolument certain, mon colonel.
J'en suis beaucoup moins certain, moi. La preuve, c'est que je suis là. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est un compte-rendu analytique, net, précis, sans bavure, sans fioriture et sans brémeuse.
Oh, alors là, vraiment, mon colonel, je me demanderai toujours où vous pouvez aller chercher tout ça. Sans bavure, sans fioriture et marche Lorraine. Il faut être fort, mon colonel. Alors ça, celle-là, vous pouvez être sûr, je la replacerai. Et je suis sûr que j'étonnerai bien Théodule Rouflaquette, l'instituteur de Monalo, qui est là-bas à la Guadeloupe, le grand spécialiste du calembour. Mais alors, un comme ça, mon colonel, ils en ont jamais entendu de pareil là-bas. Sans bavure. Bavure et marche Lorraine.
Ouais, merci, Tiffry. Voilà. C'est un brave adjudant. Et pour l'instant, nous avons d'autres préoccupations que le maniement du calembour. Il faut bien le faire, ce résumé.
Si vous le permettez, mon colonel...
Je vais vous en prier, Mlle Truscott.
Je me suis permis, mon colonel, de rédiger un très bref résumé des événements.
En combien d'exemplaires, Mlle Truscott?
Oh, en un seul exemplaire, mon colonel. C'est un document trop confidentiel. Pour plus de sûreté, d'ailleurs, je l'ai brûlé.
Ce qui signifie que nous ne sommes pas plus avancés.
Ah, si, mon colonel. Je le connais par cœur.
J'ai toujours su qu'il fallait faire confiance à votre cœur, Mlle Truscott.
Oh, mon colonel.
Bon.
Vous aurez noté le stéréotype sexiste après le raciste. Maintenant, honneur et respect au grand serviteur du pouvoir qui est le directeur de la radio. D'autres ont eu pour lui, ce mois de mars 68, une idée de génie.
Monsieur de Boisdeffre.
Eh bien, nous avons voulu profiter des circonstances qui sont exceptionnellement favorables pour France Inter et marquer cette ascension par, en effet, une formule nouvelle qui est un mariage de radio en direct et de radio enregistrée qui va occuper à partir du 30 mars environ 15 heures d'antenne chaque semaine. Nos amis Codou et Gareto, qui ont mis au point cette formule, qui sont responsables de cette nouvelle émission, nous ont demandé d'inviter leurs amis autour d'eux ce matin pour le lancement de ces nouveaux programmes qui, je l'espère, feront l'objet de la sympathie et de l'attention du public.
TSF 68, 69, 70, 71, naît à ce moment-là. Et mars 68, en fait, c'est la préhistoire d'une émission très importante que vous allez reconnaître et qui jaisit à ce moment-là. Reconstitution de France Inter en mars 68. Cette émission a été préparée par Céline Loriou. Les obsèques de son père, Dominique Loriou, journaliste à Radio France, commencent dans un instant à Notre-Dame de Passy. C'est la chaîne de la radio qui continue la réalisation. C'était Audrey Ripouille, la technique Ludovic Asselot. Et chez vous, Mathieu Vidard.
On va parler dans un instant, Jean, du droit des animaux avec Louis Schweitzer et Aurélien Barreau.
Mais jouer à l'animal, un homme comme les autres, c'est encore une provocation. On vous retrouve dans un instant.